Bonjour à tous, Liliane sur Radio Grand Ciel pour l'émission Bonne Nouvelle. Eh bien aujourd'hui, je vais vous lire les deux dernières histoires d'Edgar Allan Poe. Je ne sais pas si je vous ai dit au début des émissions, mais ce que je vous lis, a été traduit par Charles Baudelaire. Quatre bêtes en une. Antiochus Épiphane est généralement considéré comme le Gog du prophète Ézéchiel. Cet honneur, toutefois, revient plus naturellement à Gambyse, le fils de Cyrus. Et d'ailleurs, le caractère du monarque syrien n'a vraiment aucun besoin d'enjolivure supplémentaire. Son avènement au trône, ou plutôt son usurpation de la souveraineté, 171 ans avant la venue du Christ, sa tentative pour piller le temple de Diane à Éphèse, son implacable inimitié contre les Juifs, la violation du Saint des Saints et sa mort misérable à Taba après un règne tumultueux de 11 ans, sont des circonstances d'une nature saillante et qui ont dû généralement attirer l'attention des historiens de son temps plus que les impies, lâches, cruels, absurdes et fantasques exploits qu'il faut ajouter pour faire le total de sa vie privée et de sa réputation. Supposons, gracieux lecteur, que nous sommes en l'an du monde 3830 et, pour quelques minutes, transportés dans le plus fantastique des habitacles humains, dans la remarquable cité d'Antioche. Il est certain qu'il y avait en Syrie et dans d'autres contrées 16 villes de ce nom, sans compter celles dont nous avons spécialement à nous occuper. Mais la nôtre est celle qu'on appelait Antiochia Epidaphné, à cause qu'elle était tout proche du petit village de Daphné, où s'élevait un temple consacré à sa divinité. Elle fut bâtie, bien que la chose soit controversée, par Séleucus Cus Nicator, le premier roi du pays après Alexandre le Grand, en mémoire de son père Antiochus, et devint immédiatement la capitale de la monarchie syrienne. Dans les temps prospères de l'Empire romain, elle était la résidence ordinaire du préfet des provinces orientales, et plusieurs empereurs de la cité reine, parmi lesquels peuvent être spécialement mentionnés, Verus et Valens. Ils y passèrent la plus grande partie de leur vie. Mais je m'aperçois que nous sommes arrivés à la ville. Montons sur cette plateforme et jetons nos yeux sur la ville et le pays circonvoisin. Quelle est cette large et rapide rivière qui se fraye un passage accidenté d'innombrables cascades à travers le chaos des montagnes et enfin à travers le chaos des constructions? C'est l'Oronte, et c'est la seule eau qu'on aperçoive à l'exception de la Méditerranée qui s'étend comme un vaste miroir jusqu'à 12 000 environ vers le sud. Tout le monde a vu la Méditerranée, mais permettez-moi de vous le dire, très peu de gens ont joui du coup d'œil d'Antioche. Très peu de ceux-là, veux-je dire, qui, comme vous et moi, ont eu en même temps le bénéfice d'une éducation moderne. Ainsi, laissez-la la mer et portez toute votre attention sur cette masse de maisons qui s'étend à nos pieds. Vous vous rappellerez que nous sommes en l'an du monde 3830. Si c'était plus tard, si c'était par exemple en l'an de notre Seigneur 1845, nous serions privés de cet extraordinaire spectacle. Au XIXe siècle, Antioche est, c'est-à-dire Antioche sera, dans un lamentable état de délabrement. D'ici là, Antioche aura été complètement détruite à trois époques différentes par trois tremblements de terre successifs. À vrai dire, le peu qui restera de sa première condition se trouvera dans un tel état de désolation et de ruine que le patriarche aura transporté alors sa résidence à Damas. C'est bien. Je vois que vous suivez mon conseil et que vous mettez votre temps à profit pour inspecter les lieux, pour rassasier vos yeux des souvenirs et des objets fameux qui font la grande gloire de cette cité. Je vous demande pardon, j'avais oublié que Shakespeare ne fleurira pas avant 1750, mais l'aspect d'Épidaphné ne justifie-t-il pas cette épithète de « fantastique » que je lui ai donnée ? Elle est bien fortifiée. À cet égard, elle doit autant à la nature qu'à l'art. Très juste. Il y a une quantité prodigieuse d'imposants palais. En effet, Et les temples nombreux, somptueux, magnifiques, peuvent soutenir la comparaison avec les plus célèbres de l'Antiquité. Je dois reconnaître tout cela. Cependant, il y a une infinité de huttes, de bousillages et d'abominables baraques. Il nous faut bien constater une merveilleuse abondance d'ordures dans tous les ruisseaux, et n'était la toute puissante fumée de l'encens idolâtre, à coup sûr, nous trouverions une intolérable puanteur. Vîtes-vous jamais des rues si insupportablement étroites ou des maisons si miraculeusement hautes? Quelle noirceur leur ombre jette sur le sol! Il est heureux que les lampes suspendues dans ces interminables colonnades restent allumées toute la journée. Autrement, nous aurions les ténèbres de l'Égypte au temps de la désolation. C'est certainement un lieu étrange. Que signifie ce singulier bâtiment là-bas? Regardez, il domine tous les autres et s'étend au loin à l'est de celui que je crois être le palais du roi. C'est le nouveau temple du soleil qui est adoré en Syrie sous le nom d'Ella Gabala. Plus tard, un très fameux empereur romain instituera ce culte dans Rome et en tirera son surnom, Helio Gabalus. J'ose vous affirmer que la vue de la divinité de ce temple vous plairait fort. Vous n'avez pas besoin de regarder au ciel. Sa Majesté le Soleil n'est pas là. Du moins le soleil adoré par les Syriens. Cette déité se trouve dans l'intérieur du bâtiment situé là-bas. Elle est adorée sous la forme d'un large pilier de pierre dont le sommet se termine en un cône ou pyramide, par quoi est signifié le pyr, c'est-à-dire le feu. Écoutez, regardez, quels peuvent être ces ridicules êtres à moitié nus, à face peinte, qui s'adressent à la canaille avec force gestes et vociférations. Quelques-uns en petit nombre sont des saltimbanques. D'autres appartiennent plus particulièrement à la race des philosophes. La plupart, toutefois, spécialement ceux qui travaillent la populace à coups de bâton, sont les principaux courtisans du palais qui exécutent, comme c'est leur devoir, quelques excellentes drôleries de l'invention du roi. Mais voilà du nouveau! Ciel, la vie fourmille de bêtes féroces! Quel terrible spectacle! Quelle dangereuse singularité! Terrible si vous voulez, mais pas le moins du monde dangereuse. Chaque animal, si vous voulez vous donner la peine d'observer, marche tranquillement derrière son maître. Quelques-uns, sans doute, sont menés avec une corde autour du cou, mais ce sont principalement les espèces plus petites ou plus timides. Le lion, le tigre, le léopard sont entièrement libres. Ils ont été formés à leur présente profession sans aucune difficulté et suivent leurs propriétaires respectifs en manière de valets de chambre. Il est vrai qu'il y a des cas où la nature revendique son empire usurpé, mais un héros d'armes dévoré, un taureau sacré étranglé sont des circonstances beaucoup trop vulgaires pour faire sensation dans Épidaphné. Mais quel extraordinaire tumulte, entends-je ? À coup sûr, voilà un grand bruit. Même pour Antioche, cela dénote quelque incident d'un intérêt inusité. Oui, indubitablement. Le roi a ordonné quelques nouveaux spectacles, quelle exhibition de gladiateurs à l'hippodrome, ou peut-être le massacre des prisonniers scythes, ou l'incendie de son nouveau palais, ou la démolition de quelques temples superbes, ou bien, ma foi, un beau feu de joie de quelques juifs. Le vacarme augmente. Des éclats d'hilarité montent vers le ciel. L'air est déchiré par les instruments à vent et par la clameur d'un million de gosiers. Descendons pour l'amour de la joie et voyons ce qui se passe. Par ici, prenez garde. Nous sommes ici dans la rue principale qu'on appelle la rue de Timarcus. Cette mer de populace arrive de ce côté et il nous sera difficile de remonter le courant. Elle se répand à travers l'avenue d'Héraclides qui part directement du palais. Ainsi, le roi fait très probablement partie de la bande. Oui, j'entends les cris du héros qui proclame sa venue dans la pompeuse phraséologie de l'Orient. Nous aurons le coup d'œil de sa personne quand il passera devant le temple d'Ashima. Mettons-nous à l'abri dans le vestibule du sanctuaire. Il sera ici tout à l'heure. Pendant ce temps-là, considérons cette figure. Qu'est-ce ? Oh, c'est le dieu d'Ashima en personne. Vous voyez bien que ce n'est ni un agneau, ni un bouc, ni un satyre. Il n'a guère plus de ressemblance avec le pan des Arcadiens. Et cependant, tous ces caractères seront attribués par les érudits des siècles futurs à la chima des Syriens. « Mettez vos lunettes et dites-moi ce que c'est. »«
Dieu me pardonne, c'est un singe. » »«
Oui, vraiment, un babouin. » »« Mais pas le moins du monde une déité. » Son nom est une dérivation du grec simia. Quelque terrible saut que les antiquaires. Mais voyez, voyez là-bas courir ce petit polisson en guenille. Où va-t-il? Que braille-t-il? Oh, il dit que le roi arrive en triomphe, qu'il est dans son costume des grands jours, qu'il vient, à l'instant même, de mettre à mort de sa propre main 1000 prisonniers israélites enchaînés. Pour cet exploit, le petit misérable porte au nu. Attention, voici venir une troupe de gens tous semblablement attifés. Ils ont fait un hymne latin sur la vaillance du roi et le chantent en marchant. Ils le chantent en latin, mais je n'y comprends rien. Eh bien, je vais vous le traduire. Mille, 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 avec un seul guerrier, nous en avons égorgé mille. Mille, 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 chantons mille à jamais. Chantons longue vie à notre roi qui a abattu 1000 hommes si joliment. Hurrah, crions à tue-tête qu'il nous a donné une plus copieuse vendange de sang que tout le vin que peut fournir la Syrie. Entendez-vous cette fanfare de trompette? Oui, le roi arrive, voyez, le peuple est pantelant d'admiration et lève les yeux au ciel dans son respectueux attendrissement. Il arrive, il arrive, il arrive, le voilà. Qui, où? Le roi? Je ne le vois pas. Je vous jure que je ne l'aperçois pas. Ben, il faut que vous soyez aveugle. C'est bien possible, toujours est-il que je ne vois qu'une foule tumultueuse d'idiots et de fous qui s'empressent de se prosterner devant un gigantesque caméléopard et qui s'évertue à déposer un baiser sur le sabot de l'animal. Voyez, la bête vient justement de cogner rudement quelqu'un de la populace. Ah, encore un autre, et un autre, et un autre. En vérité, je ne puis m'empêcher d'admirer l'animal pour l'excellent usage qu'il fait de ses pieds. Populace en vérité, mais ce sont les nobles et libres citoyens d'Épidaphnée. La bête, avez-vous dit? Prenez bien garde si quelqu'un vous entendait. Ne voyez-vous pas que l'animal a une face d'homme? Mais mon cher monsieur, ce caméléopard n'est autre qu'Antiochus Épiphanès. Antiochus, illustre roi de Syrie, le plus puissant de tous les autocrates de l'Orient? Il est vrai qu'on le décore quelquefois du nom d'Antiochus Épimanès, Antiochus le fou, mais c'est à cause que tout le monde n'est pas capable d'apprécier ses mérites. Il est bien certain que pour le moment, il est enfermé dans la peau d'une bête et qu'il fait de son mieux pour jouer le rôle d'un caméléopard. Mais c'est à dessein de mieux soutenir sa dignité comme roi. D'ailleurs, le monarque est d'une stature gigantesque et l'habit, conséquemment, ne lui va pas mal et n'est pas trop grand. Nous pouvons toutefois supposer que, n'était une circonstance solennelle, il n'en serait pas revêtu. Ainsi, voici un cas. Convenez-en, le massacre d'un millier de Juifs. Avec quelle prodigieuse dignité le monarque se promène sur ses quatre pattes. Sa queue, comme vous voyez, est tenue en l'air par ses deux principales concubines, Élinée et Argélaïs. Et tout son extérieur serait excessivement prévenant, n'était la protubérance de ses yeux qui lui sortiront certainement de la tête et la couleur étrange de sa face qui est devenue quelque chose d'innommable par la suite de la quantité de vin qu'il a englouti. Suivons-le à l'hippodrome où il se dirige et écoutons le chant de triomphe qu'il commence à entonner lui-même. « Qui est le roi si ce n'est Épiphane ? Dites-le, savez-vous ? Qui est le roi si ce n'est Épiphane ? Bravo, bravo ! Il n'y a pas d'autre roi qu'Épiphane, non pas d'autre. Ainsi, jetez à bas les temples et éteignez le soleil. » Bien et bravement chanté, la populace le salue, prince des poètes, gloire de l'Orient, et puis délice de l'univers, et enfin, le plus étonnant des caméléopards. Ils lui font bisser son chef-d'œuvre, et entendez-vous, il recommence. Quand il arrivera à l'hippodrome, il recevra la couronne poétique comme avant-goût de sa victoire aux prochains Jeux olympiques. Mais bon Jupiter, que se passe-t-il dans la foule derrière nous?
Derrière nous, avez-vous dit?
Oh, je comprends. Mon ami, il est heureux que vous ayez parlé à temps. Mettons-nous en lieu sûr et le plus vite possible. Ici, réfugions-nous sous l'arche de cet aqueduc et je vous expliquerai l'origine de cette agitation. Cela a mal tourné, comme je l'avais pressenti. Le singulier aspect de ce caméléopard avec sa tête d'homme, a, il faut le croire, choqué les idées de logique et d'harmonie acceptées par les animaux sauvages domestiques dans la ville. Il en est résulté une émeute. Et comme il arrive toujours en pareil cas, tous les efforts humains pour réprimer le mouvement seront impuissants. Quelques Syriens ont déjà été dévorés, mais les patriotes à quatre pattes semblent être d'un accord unanime pour manger le caméléopard. Le prince des poètes s'est donc dressé sur ses pattes de derrière, car il s'agit de sa vie. Ses courtisans l'ont laissé en plan, et ses concubines ont suivi un si excellent exemple. Délices de l'univers, tu es dans une triste passe. Gloire de l'Orient, tu es en danger d'être croqué. Ainsi, ne regarde pas si piteusement ta queue. Elle traînera indubitablement dans la crotte. À cela, il n'y a pas de remède. Ne regarde donc pas derrière toi et ne t'occupe pas de son inévitable déshonneur. Mais prends courage, joue vigoureusement des jambes et file vers l'hippodrome. Souviens-toi que tu es Antiochus Épiphane, Antiochus l'illustre, et aussi le prince des poètes, la gloire de l'Orient, les délices de l'univers et le plus étonnant des caméléopards. Juste ciel, quelle puissance de vélocité tu déploies! La caution des jambes, la meilleure, tu la possèdes celle-là. Cours, prince, cours, Épiphane! Tu vas bien, caméléopard, glorieux Antiochus, il court, il bondit, il vole, comme un trait détaché par une catapulte, il se rapproche de l'hippodrome. Il bondit, il crie, il y est. C'est heureux, car, ô gloire de l'Orient, si tu avais mis une demi-seconde de plus à atteindre les portes de l'amphithéâtre, il n'y aurait pas eu dans Épidaphné un seul petit ours qui n'eût grignoté sur ta carcasse. Allons-nous-en, partons, car nos oreilles modernes sont trop délicates pour supporter l'immense vacarme qui va commencer en l'honneur de la délivrance du roi. Écoutez, il a déjà commencé. Voyez, toute la ville est sans dessus-dessous. Voilà certainement la plus pompeuse cité de l'Orient. Quel fourmillement de peuple! Quel pêle-mêle de tous les rangs et de tous les âges! Quelle multiplicité de sectes et de nations! Quelle variété de costumes! Quel babel de langues! Quel cri de bêtes! Quel tintamarre d'instruments, quel tas de philosophes! Venez, sauvons-nous! Encore un moment, je vois un vaste remue-ménage dans l'hippodrome. Dites-moi, je vous en supplie, dites-moi ce que ça signifie. Cela? Oh, rien! Les nobles et libres citoyens d'Épidaphné étant, comme ils le déclarent, parfaitement satisfaits de la loyauté, de la bravoure, de la sagesse et de la divinité de leur roi, et de plus, ayant été témoins de sa récente agilité surhumaine, pensent qu'ils ne font que leur devoir en déposant sur son front, en surcroît du laurier poétique, une nouvelle couronne, prix de la course à pied, couronne qu'il faudra bien qu'il obtienne au fait de la prochaine Olympiade, et que naturellement, il lui décerne aujourd'hui par avance. Thank you. portrait ovale. Le château dans lequel mon domestique s'était avisé de pénétrer de force, plutôt que de me permettre, déplorablement blessé comme je l'étais, de passer une nuit en plein air, était un de ces bâtiments mélange de grandeur et de mélancolie qui ont si longtemps dressé leur front sourcilleux au milieu des Apennins, aussi bien dans la réalité que dans l'imagination de Mistress Radcliffe. Selon toute apparence, il avait été temporairement et tout récemment abandonné. Nous nous installâmes dans une des chambres les plus petites et les moins somptueusement meublées. Elle était située dans une tour écartée du bâtiment. Sa décoration était riche, mais antique et délabrée. Les murs étaient tendus de tapisseries, décorés de nombreux trophées héraldiques de toutes formes, ainsi que d'une quantité vraiment prodigieuse de peintures modernes, pleines de style, dans de riches cadres d'or d'un goût arabesque. Je pris un profond intérêt, ce fut peut-être mon délire qui commençait, qui en fut cause, je pris un profond intérêt à ces peintures qui étaient suspendues non seulement sur les faces principales des murs, mais aussi dans une foule de recoins que la bizarre architecture du château rendait inévitable. Si bien que j'ordonnai à Pedro de fermer les lourds volets de la chambre, puisqu'il faisait déjà nuit, d'allumer un grand candélabre à plusieurs branches placé près de mon chevet et d'ouvrir tout grand les rideaux de velours noir gardés de crépines qui entouraient le lit. Je désirais que cela fût ainsi pour que je pusse au moins, si je ne pouvais pas dormir, me consoler alternativement par la contemplation de ces peintures et par la lecture d'un petit volume que j'avais trouvé sur l'oreiller et qui en contenait l'appréciation et l'analyse. Je fus longtemps, longtemps, je contemplais religieusement, dévotement, les heures s'envolèrent, rapides et glorieuses, et le profond minuit arriva. La position du candélabre me déplaisait, et étendant la main avec difficulté, pour ne pas déranger mon valet assoupi, je plaçai l'objet de manière à jeter les rayons en plein sur le livre. Mais l'action produisit un effet absolument inattendu. Les rayons des nombreuses bougies, car il y en avait beaucoup, tombèrent alors sur une niche de la chambre que l'une des colonnes du lit avait jusque-là couverte d'une ombre profonde. J'aperçus, dans une vive lumière, une peinture qui m'avait d'abord échappé. C'était le portrait d'une jeune fille, déjà mûrissante et presque femme. Je jetai sur la peinture un coup d'œil rapide et je fermai les yeux. Pourquoi ? Je ne le compris pas tout de même d'abord. Mais pendant que mes paupières restaient closes, j'analysais rapidement la raison qui me les faisait fermer ainsi. C'était un mouvement involontaire pour gagner du temps et pour penser, pour m'assurer que ma vue ne m'avait pas trompé, pour calmer et préparer mon esprit à une contemplation plus froide et plus sûre. Au bout de quelques instants, je regardais de nouveau la peinture fixement. Je ne pouvais pas douter quand même, je l'aurais voulu, que je n'y visse alors très nettement, car le premier éclair du flambeau sur cette toile avait dissipé la stupeur rêveuse dont mes sens étaient possédés et m'avait rappelé tout d'un coup à la vie réelle. Le portrait, je l'ai déjà dit, était celui d'une jeune fille. C'était une simple tête avec des épaules, le tout dans ce style qu'on appelle en langage technique « style de vignette ». Beaucoup de la manière de Sully dans ses têtes de prédilection. Les bras, le sein et même les bouts des cheveux rayonnants se fondaient insaisissablement dans l'ombre vague mais profonde qui servait de fond à l'ensemble. Le cadre était ovale, magnifiquement doré et guilloché dans le goût mauresque. Comme œuvre d'art, on ne pouvait rien trouver de plus admirable que la peinture elle-même. Mais il se peut bien que ce ne fût ni l'exécution de l'œuvre, ni l'immortelle beauté de la physionomie qui m'impressionna si soudainement et si fortement. Encore moins, devais-je croire que mon imagination, et surtout d'un demi-sommeil, eût pris la tête pour celle d'une personne vivante. Je vis tout d'abord que ces détails du dessin, le style de vignette et l'aspect du cadre auraient immédiatement dissipé un pareil charme et m'auraient préservé de toute illusion même momentanée. Tout en faisant ces réflexions, et très vivement, je restais à demi étendu, à demi assis, une heure entière peut-être, les yeux rivés à ce portrait. À la longue, ayant découvert le vrai secret de son effet, je me laissai retomber sur le lit. J'avais deviné que le charme de la peinture était une expression vitale absolument adéquate à la vie elle-même, qui d'abord m'avait fait tressaillir et finalement m'avait confondu, subjugué, épouvanté.
Avec une terreur profonde et respectueuse, je replaçai le candélabre dans sa position première. Ayant ainsi dérobé à ma vue la cause de ma profonde agitation, je cherchai vivement le volume qui contenait l'analyse des tableaux et leur histoire. À l'endroit au numéro qui désignait le portrait ovale, j'y lus le vague et singulier récit qui suit. C'était une jeune fille d'une très rare beauté et qui n'était pas moins aimable que pleine de gaieté. Et maudite fut l'heure où elle vit et aima et épousa le peintre. Lui, passionné, studieux, austère, et ayant déjà trouvé une épouse dans son art, elle, une jeune fille, d'une très rare beauté, non moins aimable que pleine de gaieté, rien que la lumière et sourire et folâtrie d'un jeune fan, aimant et chérissant toute chose, ne haïssant que l'art qui était son rival, ne redoutant que la palette et les brosses et les autres instruments fâcheux qui la privaient de la figure de son adoré. Ce fut une terrible chose pour cette dame que d'entendre le peintre parler du désir de peindre, même sa jeune épouse. Mais elle était humble et obéissante, et elle s'assit avec douceur pendant de longues semaines dans la sombre et haute chambre de la tour, où la lumière filtrait sur la pâle toile seulement par le plafond. Mais lui, le peintre, mettait sa gloire dans son œuvre qui avançait d'heure en heure et de jour en jour. Et c'était un homme passionné, étrange et pensif, qui se perdait en rêverie, si bien qu'il ne voulait pas voir que la lumière qui tombait si lugubrement dans cette tour isolée desséchait la santé et les esprits de sa femme, qui languissait visiblement pour tout le monde excepté pour lui. Cependant, elle souriait toujours et toujours sans se plaindre, parce qu'elle voyait que le peintre, qui avait un grand renom, prenait un plaisir vif et brûlant dans sa tâche et travaillait nuit et jour pour peindre celle qu'il aimait si fort et qui devenait de jour en jour plus languissante et plus faible. Et en vérité, ceux qui contemplaient le portrait parlaient à voix basse de sa ressemblance comme d'une puissante merveille et comme d'une preuve non moins grande de la puissance du peintre que de son profond amour pour celle qu'il peignait si miraculeusement bien. Mais à la longue, comme la besogne approchait de sa fin, la personne ne fut plus admise dans la tour, car le peintre était devenu fou par l'ardeur de son travail et il détournait rarement ses yeux de la toile, même pour regarder la figure de sa femme. Et il ne voulait pas voir que les contours qu'il étalait sur la toile étaient tirés des joues de celle qui était assise près de lui. Et quand bien des semaines furent passées, et qu'il ne restait plus que peu de choses à faire, rien qu'une touche sur la bouche et un glacis sur l'œil, l'esprit de la dame palpita encore comme la flamme dans le bec d'une lampe. Et alors la touche fut donnée, et alors le glacis fut placé, et pendant un moment le peintre se tint en extase devant le travail qu'il avait travaillé, mais une minute après, comme il contemplait encore, il trembla, et il devint très pâle, et il fut frappé d'effroi, et criant d'une voix éclatante, « En vérité, c'est la vie elle-même !» Il se retourna brusquement pour regarder sa bien-aimée. Elle était morte. Thank you.